Interview.
1. Interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et sur internet le www.rdwa.fr. Aujourd'hui, je reçois Ugren, gynécologue obstétricien. Vous êtes venu parler d'une soirée qui aura lieu au centre de l'Aube, une soirée au sujet des femmes, femmes demain. Bonjour.
Oui, alors en effet, on fait cette soirée, c'est bien sûr sur la journée de la femme, le 8 mars, et donc... On s'est dit que c'était un sujet qui était d'actualité. Il y avait beaucoup eu de polémiques autour de ce sujet, dans le milieu parisien surtout. Et voilà, on voulait amener un message un peu plus de tranquillité, de paix, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue depuis déjà très longtemps autour de la place de l'homme et de la femme. Et puis terminer plutôt par des notes d'espoir et pour essayer de voir ce que ça allait être demain. C'est pour ça qu'on a mis femme demain.
Femme demain. Alors, je sais que la journée de la femme est aussi appelée ou le contraire. La journée internationale des droits des femmes est également appelée journée de la femme. Sur quel angle en particulier vous vous penchez pour cette soirée au centre de l'Aube ?
Alors si vous voulez, je pense qu'on va aborder les choses en trois temps. Le premier, c'est comprendre quelle a été la place de l'homme et de la femme dans les temps anciens. Et en fait, les anthropologues sont à peu près certains maintenant qu'en fait, la femme a une place tout à fait prépondérante il y a environ 10 000 ans. Pour différentes raisons, dont une, c'est que avant 10 000 ans, on ne savait pas comment se faisaient les enfants. Et faire un enfant était quelque chose d'absolument capital pour la survie de la tribu, la survie de l'homme, de l'humain, homme au sens humain. Et donc, faire des enfants paraissait magique et issu des femmes. Et donc, elles étaient presque déifiées du fait de faire des enfants.
Ce n'était pas relié à l'acte sexuel, par exemple. On n'avait pas
non,
fait ce lien-là.
Non, le lien n'était absolument pas fait. C'est bien plus tard que ça a été fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que du coup, ça a relativisé dans l'esprit des hommes, en particulier la place de la femme, parce qu'ils ont vu qu'ils intervenaient, et donc ça va être une des raisons de son déclin. Ce qui est très intéressant quand on s'intéresse à l'histoire de l'humain et la place de la femme, c'est de se rendre compte, parce que ça appartient à sa nature, que quand la femme a eu cette place prépondérante, c'était une place tout à fait en paix. C'était pas une place en rivalité comme c'est maintenant, où les choses sont un peu en force, c'est l'un contre l'autre. Enfin, ça a été un petit peu comme ça, quoi. L'homme a voulu prendre la place et, d'un certain point de vue, à un moment, asservir un peu la femme. Peut-être qu'on aura le temps d'évoquer pourquoi, parce qu'il y a aussi des raisons à ça. Mais là, c'était pas du tout ça. C'était une reconnaissance naturelle de la place de la femme dans le fait qu'elle donnait vie. C'était une des choses. Et en plus, la force physique était à peu près la même encore. Il n'y avait pas de différence fondamentale. Donc, même en ce qui concernait, si vous voulez, la chasse, tous les travaux qu'il y avait à faire, il y avait une force égale. Donc, un intérêt pour le groupe social égal. Sauf, bien sûr, au moment des maternités, au moment de l'allaitement, etc. Mais comme transmettre la vie, donner la vie était essentiel pour la tribu, c'était considéré comme quelque chose de très respectable.
C'est-à-dire qu'on a la certitude qu'à l'époque à laquelle vous parlez, donc dans une préhistoire très très ancienne, les femmes et les hommes avaient des physiques comparables.
Je ne sais plus exactement quand c'était, mais oui, il y a eu un moment où les forces physiques étaient presque semblables. Et donc ça aussi, ça a joué pour l'égalité. Mais surtout, ce n'est pas tellement ça qui a joué, c'est surtout le fait que, je vous dis, il y avait cette capacité à donner la vie.
Alors, pendant cette soirée, vous revenez sur la façon dont était organisée la société il y a longtemps et qui explique des différences de traitement au fur et à mesure des siècles. Est-ce que ça aide à comprendre comment ça se passe aujourd'hui et puis surtout à éventuellement rectifier le tir ?
J'espère bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est bien, si vous voulez, je crois qu'il faut toujours comprendre le passé pour essayer de mettre un peu plus de paix. Et en fait, la place prépondérante de l'un ou de l'autre était liée plutôt comme on l'a vu pour la femme, à l'intérêt pour l'ensemble du groupe. Et là, je ne sais pas si on a le temps de développer tout ça, mais il y a eu quelque chose qui a évolué après, au moment, si vous voulez, de l'élevage, au moment où il a fallu se sédentariser. Et à ce moment-là, les choses ont un peu changé. D'abord parce que le physique avait changé. parce qu'en plus, on savait comment se faisaient les enfants, donc que les hommes intervenaient. Et puis, surtout, les hommes étant plus forts et ayant plus d'énergie, c'est eux qui allaient chasser les animaux. Et si vous voulez, c'était, et les attraper pour l'élevage. Et donc, c'était beaucoup plus, comment dire, reluisant, on va dire, remarquable d'attraper les animaux vivants et les mettre en captivité que leur donner à manger, les garder et traire un peu les femelles, voyez.
On voit que ça a été interprété de façon différente selon les civilisations,
bien
quand
sûr,
même.
Bien sûr,
tout à fait. Il y a les mêmes faits qui ont donné lieu à des matriarcats et d'autres, et les mêmes faits qui ont donné lieu à des patriarcats.
Voilà. Alors, matriarcat, c'est un terme, je veux dire, qui est, pour la période dont je parle, qui n'est pas tout à fait adapté, c'est ce que les chercheurs ont dit, c'est que justement, c'était plutôt ce qu'on appelait une matrilinéarité. C'est-à-dire que matriarcat signifie, se pose en opposition à patriarcat, qui est le père, chef, et c'est lui qui décide, et c'est lui qui maîtrise tout. Alors que là, c'était une reconnaissance. Et une reconnaissance de la linéarité, c'est-à-dire que du fait que la femme engendrait. Donc, c'est elle qui transmettait. C'est même elle qui transmettait les biens, puisqu'on savait d'où venaient les enfants, mais on ne savait pas qu'ils venaient du père. Et c'est d'ailleurs bien plus tard, quand on a compris que le sperme agissait, bien sûr, pour le démarrage de la grossesse, et qu'on a compris que l'homme et la femme étaient liés, qu'il y a eu cette prise de pouvoir de l'homme sur la femme, au moment des Romains en particulier, où ils ont voulu savoir que leurs enfants étaient bien les leurs. Et que, donc il a fallu, pour ça, c'est triste à dire, hein, mais contrôler la femme pour être sûr que l'enfant était bien le leur et pour la transmission du patrimoine. C'est-à-dire qu'au moment des Romains, des Grecs et des Romains, la possession devient quelque chose de très important, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc transmettre à sa propre famille était très important. Donc en fait, l'union du couple au moment des Romains n'était pas du tout une histoire d'amour, c'était une histoire de transmission. C'était une histoire de savoir qui sont les enfants, d'où ils viennent et à qui on transmet. Et c'est ça qui a fait les premiers couples. Mais avoir du plaisir ensemble dans la sexualité, les Romains s'en fichaient éperdument. D'ailleurs, ils batifolaient, semble-t-il. Les femmes, non, elles n'avaient pas le droit, puisque justement, il fallait savoir d'où venaient les enfants. Mais les hommes avaient prenaient cette liberté, ce qui est tout à fait inégal, je le reconnais, mais ce qui s'explique, c'est ça que je veux dire.
Une malédiction, quoi, qui part d'une belle chose, mais qui nous poursuit jusqu'en 2018.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, une malédiction, je ne sais pas, c'est une injustice, ça c'est absolument certain. Mais je pense que ce qu'il faut aussi voir, c'est que depuis tous les efforts qui ont été faits par des femmes remarquables, les choses vont dans un sens plutôt positif, puisque de plus en plus, on reconnaît heureusement, l'égalité au sens humain de ce terme, puisque les femmes votent alors qu'elles ne votaient pas il y a pas si longtemps.
Il y a très peu de temps, en fait.
Il y a 1945, je crois que c'est. Donc, vous voyez, c'est pas. Je crois bien que c'est 45, je peux me tromper. Hein, donc, j'avance cette date
avec prudence. C'est 45, mais par exemple, le fait de travailler sans l'autorisation de son mari ou d'avoir un compte en banque, c'est des choses encore plus récentes que ça.
Exactement, tout à fait. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un grand poids, mais en même temps, une évolution. Donc, je crois qu'après, moi, je suis plutôt pour s'encourager les uns les autres vers l'évolution. Plutôt se passionner pour l'évolution, voir dans quelle direction ça va, plutôt que de faire encore des guerres entre hommes et femmes. Je pense qu'il faut essayer d'aller de l'avant. Et je crois que justement, quand on veut aller de l'avant, on se rend compte à quel point le point de vue de la femme manque dans tous les domaines. C'est-à-dire, dans les domaines, si je prends que le domaine politique, la nature même de la femme, alors je sais bien que la nature est un sujet un peu tabou ces temps-ci aussi, mais la nature masculine et féminine, mais qu'on le veuille ou non, le fait de faire ou de pouvoir faire des enfants produit une perception du monde qui est différente de l'homme, totalement différente. Et il y a des choses qui ne sont pas dans la façon de concevoir les choses de la femme et qui sont très précieuses et qui se perdent justement parce que la femme n'a pas assez sa place dans la société. Et quand on construit la vie dans son ventre, on ne peut pas avoir un mépris de la vie comme l'homme l'a, hélas, trop souvent à travers les guerres. Donc les femmes qui sont vraiment femmes vont amener un point de vue beaucoup plus de paix.
Ça, c'est quand même très cliché. Enfin, je veux dire, ça me fait penser tout de suite à la chanson de Renaud qui s'appelle Miss Maggie, où il déblatère comme ça en disant qu'aucune femme ne peut être aussi violente qu'un homme, etc. Et puis il dit, à part peut-être Madame Thatcher, mais finalement des Madame Thatcher, il y en a tout un tas. Et on a des exemples historiques qui nous prouvent que on peut être l'égal de l'homme de tous les points de vue, même pour les choses violentes ou méchantes.
Oui, enfin, j'ai pas d'autres. Alors, si vous voulez, allez, là, on touche un sujet, c'est le masculin, le féminin, et la nature masculine, la nature féminine. Mais l'homme et la femme sont un jour appelés à détenir ces deux natures. Et comme vous dites tout à fait justement, par exemple, Gandhi était un homme de paix, c'est un homme. Il y a eu beaucoup d'hommes de très grande paix, Martin Luther King, Gandhi, comme je disais. Donc, en effet, c'est pas du tout séparé au sens sexuel. C'est plutôt quelque chose où les deux natures, masculine et féminine, doivent se retrouver dans tous les humains. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui manque, me semble-t-il, mais c'est peut-être un peu un cliché, peut-être, certes, mais c'est que la nature féminine n'est pas encore quelque chose qui a suffisamment sa place dans tous les humains, hommes ou femmes, et dans la société, et ça, ça manque.
Là, moi, où je pourrais résumer vos propos, finalement, sans m'attarder sur le genre, c'est que la moitié de l'espèce humaine est femme, et que finalement, on se passe dans beaucoup de domaines de la moitié des humains. Donc, peu importe que ce soit homme ou femme, si c'était la moitié, qu'on était tous du même genre et qu'on se passait de la moitié des points de vue, ce serait dramatique, en fait.
C'est très, très bien résumé, c'est magnifique. Et c'est vrai aussi pour toutes les minorités. Quand on conduit un pays en ne s'occupant pas des minorités et qu'on les exclut, eh bien, ça fait qu'on n'a pas tous les points de vue. Et ça, c'est quelque chose de très important pour toute la conduite du monde, c'est tenir compte des points de vue de chacun. Vous savez, il y a une notion que je me permets de ramener ici, c'est la notion que les astrophysiciens appellent d'interdépendance. C'est-à-dire que nous nous croyons tous séparés, mais en fait, c'est une illusion. En fait, nous sommes tous réunis par quelque chose qui est invisible peut-être, mais qui réunit tout le genre humain. Et donc, considérer qu'on peut mettre de côté une partie de l'humain et vouloir en garder une seule, ça, on a déjà vu les effets que ça avait dans la dernière guerre, dans 1939-1945, on sait très bien que c'est une illusion et très, très extrêmement dangereuse. Donc, il faut tenir compte de l'ensemble des humains, de l'ensemble des points de vue. C'est peut-être compliqué, mais c'est la seule solution.
Bah, et puis c'est au-delà de la solution, en fait, ça devrait être notre seule possibilité d'exister.
Éthiquement, c'est la seule. C'est-à-dire que quand on regarde comment fonctionne et ce que c'est que l'humain, le respect qu'on doit avoir pour l'humain devrait faire que c'est la seule solution. Mais comme vous le disiez tout à fait très justement aussi, quelquefois il y a des violences, il y a tout ça, et que ces violences font, qu'elles soient hommes ou femmes d'ailleurs, font qu'on se passe du respect qu'on devrait avoir pour l'humain et pour toutes les formes de vie, pas simplement l'humain, toutes les formes de vie.
Alors cette soirée, on s'est, j'allais dire, écarté du sujet, mais pas du tout.
Non,
on est complètement dedans et je pense qu'on pourrait en parler de longues heures. Mais Femmes Demain, ce sera le jeudi 8 mars 2018 à 20h30 au Centre de l'Aube. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous indiquer où se trouve le Centre de l'Aube et puis rappeler brièvement, on l'a déjà dit sur les ondes de RDIWA, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté ces contenus, mais ce qu'est le Centre de l'Aube?
Oui, alors d'abord, il se trouve donc à Piégro-Laclastre. Quand on prend la direction, alors quand on vient de Die, puisqu'on est à Die, on va partir du principe que voilà, quand on vient de Die, il y a un rond-point où il y a marqué Piégro-Laclastre. Eh bien, on tourne à ce rond-point. Ensuite, on prend la direction de Piégro, qui est à 100 mètres. Sauf que au lieu de rentrer dans Piégro, on va tout droit. Il y a un passage à niveau, et là, on reste on garde le passage à niveau. On ne passe pas le passage à niveau. On reste à droite, et donc on longe la voie ferrée. Et la voie ferrée est donc sur notre gauche. Et en suivant, il y a des petits panneaux qui indiquent l'aube. On arrive à l'aube, il y a des parkings pour se garer. Et la soirée se passe dans le deuxième bâtiment, pour ceux qui connaissent.
J'imagine que tout cela sera indiqué?
Bien sûr, oui, ce sera indiqué, ce sera fléché, il y a tout ce qu'il faudra.
Il se passe beaucoup de choses au Centre de l'Aube tout au long de l'année. Voilà, pour résumer vos activités, quelles sont-elles?
Alors oui, on en a souvent parlé sur vos ondes d'ailleurs et puis ailleurs, des activités. Là, il y en a une dont je voudrais peut-être dire un mot, mais qu'on en parlera tout à l'heure. C'est une nouvelle activité qu'on a sur les rêves. Et ça fait maintenant 3-4 ans qu'on travaille sur les rêves et on s'est rendu compte à quel point c'était une matière précieuse pour que l'humain se comprenne lui-même pour sa propre évolution. Et donc ça, c'est quelque chose dont on parlera une autre fois sur vos ondes.
Absolument, on viendra là-dessus. Donc c'est un centre, comment dit-on, un centre qui,
voilà,
vous faites des conférences, des ateliers?
Des stages, des ateliers. Donc moi, notre groupe plutôt, on organise un certain nombre. Par exemple, on fait des choses sur la phylogénèse aussi, donc l'histoire de la vie sur Terre. Moi, je fais des choses, puisque je suis gynécologue obstétricien, sur la parentalité, sur la préparation à l'accouchement avec des sages-femmes, etc., des médecins, et puis péricultrices. On fait aussi, au-delà de ça, des choses sur la sexualité. Je fais sur le couple, bien évidemment, on en avait parlé ici. Et puis, j'anime aussi ce que j'appelle les enquêtes. Les enquêtes, c'est pour essayer de comprendre nos comportements. C'est-à-dire qu'on a des comportements répétitifs qui nous font souffrir, et pour comprendre l'origine et puis pour ne plus avoir besoin de répéter ces comportements. Et justement, c'est un petit peu d'ailleurs dans ces enquêtes qu'on a mis le doigt un peu sur les rêves et qu'on a beaucoup utilisé les rêves et qu'on s'est rendu compte que c'était une matière à part entière et donc que du coup on a fait un temps spécial sur les rêves.
Cette soirée du jeudi 8 mars, elle commence à 20h30 et en quoi ça consiste exactement? À quoi sommes-nous conviés?
Alors, il va y avoir, ça c'est toujours très convivial, hein, il va y avoir donc une intervention de ma part pour justement parler un peu de l'historique. Et puis il y a une femme qui est psychologue, Nathalie Lancelin, qui est quelqu'un qui intervient beaucoup sur les radios d'ailleurs aussi, sur les télévisions nationales, qui est spécialiste en parentalité,
En périnatalité,
merci, j'avais oublié.
Je remercie mes notes surtout.
Donc en périnatalité, qui est quelqu'un qui a écrit pas mal de livres aussi sur le sujet. Et donc j'aime bien sa façon de présenter les choses. Et donc elle va être avec nous pour parler justement de la femme. Et de la femme, justement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, dans les différentes sociétés. Et puis dans demain.
Alors, une sorte d'intervention, une sorte de conférence qui lance ensuite une discussion.
Bien sûr, oui, on discute beaucoup avec la salle, même en cours de conférence, on peut discuter. Et puis ensuite, après cette discussion, on passe à l'étage en dessus et là, il y a une collation qui est servie et puis on peut discuter de façon plus informelle les uns avec les autres, se rencontrer et aborder les différents sujets pour ceux qu'ils préfèrent aborder dans un cercle plus restreint.
Alors, j'imagine que les auditeurs et les auditrices de Radio Diwa auront de nombreuses occasions pour discuter des droits des femmes au cours de cette journée qui va créer plein d'initiatives, j'en suis sûre. Mais là, ce sera au centre de l'Aube le jeudi 8 mars 2018 à 20h30. Il y a un prix à cette soirée ?
Non, il n'y a pas de prix. Alors après, il y a un chapeau. Donc ceux qui veulent, pour essayer d'abord de financer le voyage de cette psychologue qui vient très gentiment gratuitement. Je trouve que c'est toujours sympa de leur payer le voyage. Et puis il y a la collation après. Si l'Aube peut s'y retrouver un petit peu dans la collation, c'est bien. Donc on laisse un chapeau, chacun met ce qu'il veut.
Voilà, alors comme on dit, participation libre.
Voilà.
Je répète, en présence de Nathalie Lancelin-Huin, psychologue spécialisée en périnatalité, et de vous-même, Ugraine, médecin gynécologue obstétricien, et vous intervenez très régulièrement au Centre de l'Aube.
Tout à fait. Je voulais juste dire une chose par rapport au Centre de l'Aube, c'est qu'en dehors de toutes les activités que je propose, moi j'aime bien qu'il y ait d'autres activités, d'autres façons de voir, d'autres personnes. Donc il y a des stages qui sont animés par d'autres sur la danse biodynamique, sur le yoga, sur beaucoup d'autres activités.
Comment fait-on pour se renseigner sur toutes ces activités qui ont lieu au centre?
Alors on a un site, Aube Association, il y a un site où tout est indiqué. Il est un petit peu en train d'être renouvelé, refait, donc je présente mes excuses parce qu'il n'est pas tout à fait encore terminé, mais voilà, on peut retrouver toutes ces activités dessus.
On peut se renseigner en tout cas comme ça et puis j'imagine qu'il y a un numéro de téléphone, je vais vous le donner tout de suite, peut-être que ça peut servir de complément au 04 75 40 03 24, vous pouvez avoir des informations complémentaires. Merci beaucoup Ugraine.
Merci à vous.
Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews sur notre site internet le www.rdwa.fr. Merci d'être à notre écoute. Interview. Hey, the bird.